Le journal, voici Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour. Après l'Aquarius, l'Ocean Viking, 8 mois après l'arrêt des activités de l'Aquarius, l'association d'aide aux migrants SOS Méditerranée a pu affréter un nouveau bateau qui a quitté Marseille hier soir, direction les côtes libyennes. Le portrait d'un humanitaire qui est à bord de l'Ocean Viking dès le début de ce journal. Un week-end très meurtrier aux États-Unis. Les tueries à quelques heures d'intervalle d'El Paso et de Dayton ont fait 29 morts. La responsabilité de Donald Trump est claire pour bon nombre de démocrates, nous dira Grégory Phillips, notre envoyé spécial à El Paso. L'État Tati chez la ministre du Travail ce matin. Muriel Pénicaud reçoit à 10h rue de Grenelle les syndicats de Tati, très remontés après l'annonce de près de 200 suppressions d'emplois. Après le tour, la tournée triomphale de Julian Alaphilippe, le coureur cycliste a participé hier au Critérium d'Aix-en-Provence. L'occasion d'un joli bain de foule pour celui qui a porté pendant 2 semaines le maillot jaune le mois dernier.
Notre invité dans un quart d'heure, le philosophe et humoriste Yves Cusset, qui publie chez Flammarion « Réussir sa vie du premier coup ». Il règle ses comptes avec les coachs spécialisés dans l'aide au développement personnel avec leurs solutions miracles.
France Inter. Le successeur du navire humanitaire Aquarius a pris la mer hier soir. L'Ocean Viking, affrété par les ONG SOS Méditerranée et MSF, a quitté le port de Marseille direction la Méditerranée centrale, c'est-à-dire la zone située au large de la Libye. 24 humanitaires sont à bord de l'Ocean Viking avec pour objectif de sauver des migrants très nombreux actuellement à quitter les côtes libyennes sur des petites embarcations. Depuis le début de l'année, près de 600 migrants sont morts noyés en Méditerranée centrale. Sur l'Ocean Viking, on retrouve quasiment la même équipe de sauveteurs que sur l'Aquarius. Thibault Lefebvre a pu rencontrer l'un d'entre eux il y a quelques jours. Il s'appelle Nick Romagnouk, c'est le coordinateur des opérations de sauvetage.
7 mois sans naviguer, jamais ces dernières années, Nick n'a passé autant de temps hors de l'eau.
J'ai envie de quitter le bureau.
Alors cet Anglais, Marseillais d'adoption, barbe fournie, peau rougie par le soleil, avait hâte de retourner en mer.
On n'est pas fait pour bosser dans les bureaux, donc soulagé d'une certaine manière de repartir en mer, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. C'est malheureux qu'on doive le faire en fait. Il y a un peu de peur aussi parce que il y a des nouveaux qui arrivent, ils sont là pleins d'enthousiasme pour la mission et ça change. Hein. Ils vont être confrontés par des choses très très difficiles, même s'il n'y a pas de mort. Juste voir les gens dans une situation aussi périlleuse et après d'entendre les histoires de souffrance, ça te change très très vite.
Nick ne se considère pas comme un humanitaire mais comme un marin. Il travaille depuis l'âge de 15 ans sur des bateaux, il est scaphandrier, nageur, formé à la médecine d'urgence, mais avant tout, amoureux de la mer. Le mois dernier, il était en vacances au Maroc pour faire du surf.
Un truc qui était un plaisir pour moi avant, maintenant c'est un danger en fait. J'ai passé tellement de temps dans l'eau pour récupérer les gens qui étaient en train de mourir que en fait, j'ai associé directement la mer à ça. En fait. Avant, ça ne me faisait pas peur, c'était l'endroit que je me sentais bien. Maintenant.
Nick, comme les 12 autres marins sauveteurs de l'Ocean Viking, ont un suivi psychologique obligatoire. Ils ne doivent pas, dans la mesure du possible, rester à bord plus de 6 semaines consécutives.
Un reportage signé Thibault Lefebvre. Il n'y a pas de place pour la haine dans notre pays. Ce sont les mots hier soir du président américain Donald Trump qui affirme que les tueurs de Dayton et d'El Paso sont des malades mentaux. À Dayton, dans l'Ohio, un jeune homme de 24 ans a ouvert le feu dans un quartier animé, tuant 9 personnes avant d'être abattu par la police. Sa sœur fait partie des victimes. Et quelques heures plus tôt, à l'autre bout du pays, dans la ville d'El Paso, au Texas, un jeune homme de 21 ans avait abattu 20 personnes avant d'être arrêté. Les précisions de notre envoyé spécial à El Paso, au Texas, Grégory Phillips.
Hier soir, alors qu'il participait aux différentes veillées organisées un peu partout en ville, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Beto O'Rourke, natif d'El Paso, a pointé du doigt la responsabilité du président Trump, l'accusant de véhiculer des idées racistes menant à ce type de violence. L'auteur de la fusillade au Texas est âgé de 21 ans, originaire de Dallas, il a fait 9 heures de route pour venir jusqu'ici à la frontière tuer un maximum de Mexicains. C'est ce qu'il a déclaré aux enquêteurs. Le jeune homme est poursuivi pour crime de haine et risque la peine de mort. Quelques minutes avant de perpétrer ce massacre dans le centre commercial, il avait diffusé sur le net un manifeste de 4 pages dénonçant l'invasion du Texas par les Hispaniques. Donald Trump, lui, promet que son administration fait déjà beaucoup pour lutter contre ce fléau. Le président s'exprimera tout à l'heure sur les fusillades depuis la Maison-Blanche. Ce lundi matin, le New York Post, le quotidien considéré comme plutôt proche de Trump, l'appelle à faire un geste courageux, à savoir interdire purement et simplement les fusils automatiques. El Paso, Grégory Phillips, France Inter.
Une nouvelle journée sous haute tension a débuté à Hong Kong. Les opposants au gouvernement hongkongais ont lancé une grève générale et menacent de paralyser le centre-ville. Les autorités aéroportuaires annoncent d'ailleurs la suppression d'une centaine de vols au départ de Hong Kong et le métro est actuellement en partie bloqué. La chef du gouvernement le gouvernement pro-Pékin déplore une situation très dangereuse. Carilam accuse les manifestants de vouloir renverser Hong Kong et de détruire complètement la vie des 7 millions d'habitants de cette ancienne colonie britannique.
7h35, Alexis de Meyer en Libye. Le maréchal Haftar a lancé son offensive sur Tripoli il y a maintenant 4 mois.
Et la guerre de libération, selon les mots de cet opposant au gouvernement de Fayez al-Sarraj, pourrait bien s'enliser. Les forces loyalistes résistent finalement mieux qu'espéré par Khalifa Haftar. Mais malgré plusieurs revers militaires ces dernières semaines, le maréchal libyen reste activement soutenu par les pays du Golfe, mais aussi par les États-Unis et par la France. Christian Chesneau.
La conquête de Tripoli par les forces du maréchal Haftar piétine, la ligne de front s'enlise. L'incontrôlable militaire n'a pas réussi à éliminer son rival Fayez al-Sarraj, certes affaibli dans son réduit de la capitale libyenne, mais dont le gouvernement est toujours reconnu par l'ONU. Quand il a lancé son offensive de printemps, le maréchal Haftar avait pris tout le monde par surprise, à commencer par ses alliés arabes et occidentaux. Tous ses soutiens ont alors appelé à la retenue et encouragé une sortie de crise négociée, mais en coulisses, beaucoup espéraient une victoire nette de celui qui se présente comme l'ennemi numéro un des radicaux islamistes. Malgré des revers sur le terrain, il continue de bénéficier de puissants soutiens. Ainsi, début juillet, après un bombardement d'un centre de migrants dans la banlieue de Tripoli, attribué aux forces pro-Haftar, l'Amérique de Trump a empêché l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une condamnation unanime de ce raid. Un carnage qui n'en a rien freiné les combats d'une guerre civile alimentée par des livraisons d'armes massives par les alliés des deux camps.
Christian Chesneau. Les syndicats de Tati reçus à 10h ce matin au ministère du Travail, 15 jours après l'annonce de la fermeture de 13 magasins Tati. Muriel Pénicaud va tenter d'apaiser la colère des représentants du personnel. Il faut dire que près de 200 emplois devraient être supprimés dès l'an prochain, Maxime Debs.
C'est à la demande des syndicats que cette réunion a été convoquée et les élus de Tati y vont ce matin déjà pour demander des comptes, à l'image d'Élodie Ferrier, secrétaire fédérale de la CGT Commerce.
Il y a 2 ans, quand Jiffy s'était positionné en tant que repreneur pour Tati, le gouvernement avait appuyé le dossier en disant que le projet était viable, que c'était un bon projet, et donc avait appuyé ce dossier-là en particulier pour que ce soit eux les repreneurs. Donc forcément, quand on voit aujourd'hui où on en est, on se demande bien où est passé ce magnifique projet.
À l'époque, la promesse faite au moment du rachat par Jiffy était de tout mettre en œuvre pour relancer l'enseigne, redonner du lustre à Tati et non pas tendre vers un PSE que les salariés, 15 jours après son annonce, n'ont forcément toujours pas digéré.
Il y a 2 ans, ils ont vraiment cru au projet et ils étaient heureux. Forcément, vous imaginez bien la déception qu'ils ont. Donc, il va falloir voir le périmètre de reclassement, voir tout ce qu'on peut faire pour maintenir les emplois.
Les syndicats qui vont également demander au ministère à ce qu'il veille à la survie du dernier site Tati que le repreneur dit vouloir préserver, celui dans le quartier Barbès à Paris. Mais désormais seul, une élue syndicale ne donne pas cher de sa peau.
Maxime Debs.
Alerte à la bactérie tueuse dans les hôpitaux européens.
La bactérie Klebsiella pneumoniae. En septembre dernier, plusieurs services d'un hôpital public de Johannesburg en Afrique du Sud, dont la maternité, avaient dû fermer après la mort de 6 nouveau-nés victimes d'une infection rare par cette bactérie qui résiste aux antibiotiques classiques. Et d'après un article assez alarmant publié dans la revue Nature Microbiology, cette bactérie tueuse serait en train de se propager en Europe. Véronique Julia.
On la croise de plus en plus souvent et elle tue de plus en plus de monde. Plus de 2000 personnes sont mortes à cause de cette bactérie en 2015 contre seulement 340 en 2007. De quoi justifier son classement par l'OMS dans la liste des agents pathogènes prioritaires résistants aux antibiotiques. Inoffensive dans l'intestin, la bactérie Klebsiella pneumoniae devient dangereuse lorsqu'elle pénètre dans le sang ou les voies respiratoires. Elle peut alors provoquer des infections comme des méningites. Dans les hôpitaux français, on la connaît bien et on s'en protège très vigoureusement depuis quelques années. Le professeur Jean-Christophe Lucet est chargé de la prévention des infections à l'hôpital Bichat à Paris.
Un patient qui a été hospitalisé quelques jours dans un pays du Sud, que ce soit le continent indien, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, chaque fois qu'un patient est rapatrié dans nos hôpitaux dans ces conditions, il y a une politique de dépistage, c'est-à-dire que le patient est placé en isolement dès son arrivée pour rechercher au niveau digestif si ces bactéries sont présentes quand le patient arrive dans nos hôpitaux.
Les enfants, les personnes âgées, immunodéprimées, celles qui sont en réanimation, par exemple, sont les plus à risque d'être infectés. La bactérie qui a muté au fil des ans est très surveillée en France et en Europe depuis 2005. En 2011 déjà, elle avait fait parler d'elle en France. 3 patients étaient décédés dans la région parisienne, infectés par une patiente qui rentrait d'un voyage en Grèce.
Véronique Julia, notre spécialiste santé. Et je vous précise qu'un article complet est à retrouver sur notre site franceinter.fr. Une défaite encourageante pour l'OM, selon l'entraîneur Villas-Boas. Hier soir, au Vélodrome, les footballeurs marseillais se sont fait battre battre 1-0 par Naples en amical, mais l'OM a fait un bon match, confirme l'entraîneur napolitain Carlo Ancelotti. Autre match amical hier soir au Camp Nou à Barcelone, victoire 2-1 des Barcelonais face aux Anglais d'Arsenal. Le champion du monde français Antoine Griezmann a été acclamé par le public catalan pour sa première titularisation à domicile avec le maillot Blaugrana. La folie à la Philippe à Aix-en-Provence. Le cycliste français star du Tour de France avec 2 semaines en jaune a participé hier à son premier critérium depuis l'arrivée sur les Champs-Élysées. C'était il y a 8 jours. Le numéro 1 mondial âgé de 27 ans est bel et bien le nouveau chouchou du public, Samuel Monod.
Porte le dossard numéro 1. Applaudissements pour Julien à la Philippe.
2000 personnes exaltées sur le cours Mirabeau, toutes sont venues voir leur nouvelle coqueluche, celle qui les a fait rêver pendant le Tour de France.
Vous êtes venu voir Julien Alaphilippe aujourd'hui ?
Oui, exactement.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Un champion. Un champion. Et je voudrais une dédicace.
Je l'ai découvert au Tour de France là, par rapport aux performances qu'il a fait hein, sur le Tour, et je l'ai suivi à la télé. Je suis venu pour le voir.
Il n'y a pas que ses performances sportives qui ont conquis le public français. Les fans saluent aussi son attitude.
On le voit, il est joyeux sur le vélo. Tous les supporters qui sont sur le bord de la route, tous les gamins sont fous. Il est abordable, il a toujours le sourire, c'est bien.
Une notoriété soudaine pour Julien Alaphilippe après une grande boucle exceptionnelle. Le numéro 1 mondial garde cependant la tête sur les épaules.
Je me suis rendu compte que le Tour a vraiment marqué les gens, donc voilà. Il faut juste rester tranquille, rester soi-même et puis penser à soi surtout parce que il reste encore des courses jusqu'à la fin de saison, donc tout ne s'arrête pas au Tour, et enfin pour moi en tout cas, et j'essaie de faire plaisir aux gens et de penser aussi un peu à moi.
Le Français a logiquement remporté la ronde d'Aix hier soir, retour gagnant donc pour le nouveau chouchou du cyclisme français.
Un reportage signé Samuel Monod de France Bleu Provence.
C'était le journal d'Alexis Demeyer.